Ce casque de cosmonaute tombe bien parce que ce matin, nous allons voyager en compagnie de l'apôtre Paul à partir du chapitre 20 du livre des Actes. Peut-être même que nous atteindrons la fin, ça dépend tout de l'horloge. Alors, ce qui est intéressant dans ces chapitres, et vous aurez besoin d'une Bible parce qu'on va aller vite, c'est que l'apôtre Paul est dans une situation, est en voyage et dans une situation stressante. Et donc, Luc nous raconte comment il se comporte quand il est sous pression. Luc nous révèle de quelle trempe il est forgé, quelles sont ses priorités, ses valeurs, ses affections, ses émotions, comment il se comporte avec ses adversaires, les autorités qui le persécutent. Comment il défend la foi et comment il fait pour témoigner de sa foi? Tout ça. Et cet enseignement, on ne l'a pas de la même façon dans ses épîtres. C'est pourquoi ce passage du livre des Actes, où on le suit alors qu'il court, qu'il va aussi vite qu'il peut d'un endroit à un autre, nous le révèle. Et Paul m'a toujours frappé, c'est un être extraordinaire, presque vraiment extraordinaire. Il n'est pas comme moi, comme la plupart d'entre nous. Alors je commence avec le chapitre 20, verset 16, à partir du verset 16, mais je ne vais pas lire les versets, c'est pour ça que je vous ai dit que vous aurez besoin d'une Bible, peut-être simplement souligner quelques mots que je commenterai. Alors, versets 16 à 21. Paul veut absolument être à Jérusalem pour la Pentecôte, afin de retrouver tous les chefs de l'Église judéo-chrétienne. Et il évite donc Éphèse, pourtant il va passer juste à côté, parce qu'il y a passé 3 ans. Il y compte tellement d'amis qu'il ne peut pas s'y arrêter sans leur consacrer beaucoup de temps. Donc, il demande au responsable de l'Église, pour qui il a beaucoup d'affection, de venir le voir afin de leur faire ses adieux, des adieux très officiels et douloureux. Il commence son discours pastoral en leur rappelant son enseignement et sa façon de vivre, ce que vous avez devant vous dans les versets. Et on voit ici quel exemple d'humilité. Il n'a d'ailleurs pas peur de dire, regardez, j'ai servi le Seigneur en toute humilité. Qui d'entre nous, est-ce que moi, je pourrais dire à quelqu'un, moi, je sers le Seigneur en toute humilité. Mais Paul l'avait tellement fait, et devant les gens, et tout le monde l'avait vraiment vu, qu'il pouvait dire, j'ai servi le Seigneur en toute humilité avec larmes. Au milieu d'épreuves. Quel exemple d'humilité, de compassion cet apôtre. Les larmes d'un homme fort comme l'apôtre Paul, qui est immense, larmes de joie, larmes de douleur, larmes de pitié, d'angoisse et d'amour. C'est ça, ce sont ces larmes qui ont gagné les âmes au Seigneur. À Éphèse comme ailleurs, les Juifs complotent contre Paul. Toute sa vie, d'ailleurs, il y a tout le temps quelqu'un qui essaye de le tuer. Alors ça, pour être sous pression, on est sous pression. D'un point de vue, sa vie ne tient qu'à un fil. Mais pour Paul, c'est un détail d'être la visée des Juifs qui veulent sa peau. Ce qui compte pour lui, envers et contre tout, c'est d'être fidèle à son maître. C'était là l'objectif de sa vie. Et il dit au responsable d'Éphèse qu'il a exposé tout le conseil de Dieu pendant le temps qu'il était avec eux, c'est-à-dire 3 mois dans la synagogue d'Éphèse, 2 ans dans une école qui s'appelle l'école de Tyrannus, on ne sait strictement rien de cet homme, sans compter qu'il donnait un enseignement dans des réunions publiques et dans des assemblées maison. Voilà ce qu'il a fait pendant 3 ans à Éphèse. On passe au verset 22 à 25. On a du chemin à parcourir, nous sommes des voyageurs ce matin. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem, versets 22 à 25. Et l'Esprit l'avertit qu'il va connaître beaucoup de souffrances. Mais regardez ce qu'il dit, Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Moi, j'accorde du prix à ma vie, encore. Et pourtant, je suis chrétien depuis fort longtemps. Beaucoup moins que la plupart des mortels, c'est sûr, mais quand même un petit prix. Mais Paul dit, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle. Ce discours est touchant par Paul se réveille, il se déshabille. Il révèle la profondeur de ses sentiments, des sentiments qui l'animent. Et on voit ici aussi son courage. C'était un homme courageux, un homme héroïque. Il révèle que le ministère que le Seigneur lui a confié lui est infiniment plus précieux que sa vie. Paul sait que de graves difficultés l'attendent, mais il est déterminé à s'y rendre, à Jérusalem, parce qu'il croit, il est persuadé que c'est la volonté de Dieu pour lui. C'était un homme extraordinaire, et pour nous qui essayons de marcher avec le Seigneur, Paul devrait être notre exemple. Quand je suis devenu chrétien et que j'ai découvert les épîtres de Paul, j'en suis resté abasourdi. J'ai dit, mais qui c'est qui peut dire des choses pareilles? Et on voit aussi ici, dans le récit que nous fait Luc, que c'était un homme extraordinaire. Versets 23 à 24, il dit aux anciens, « Souvenez-vous comment j'ai vécu parmi vous. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements, parce qu'en ce temps-là, ils n'étaient pas fabriqués en Chine, ils avaient de la valeur. Regardez mes mains. » Quand Paul avait des besoins financiers, il travaillait de ses mains jusqu'à ce qu'il reçoive des dons qui lui permettaient d'arrêter et de se consacrer entièrement à la parole. Et ici, c'est le seul passage du Nouveau Testament où on apprend que non seulement il pourvoyait à ses propres besoins, mais il pourvoyait aussi aux besoins de ses collaborateurs. Vous vous rendez compte du personnage que c'était? Verset 35. Je vous ai montré qu'il faut travailler, donner. Et là, il cite une parole du Seigneur, intéressante. Le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous n'avons pas trace de cette parole dans les évangiles. Mais combien elle est vraie, cette parole de Jésus-Christ? N'importe qui sert Dieu, que ce soit dans un hôpital, comme notre frère le dit, ou peu importe la façon dont le Seigneur nous a appelés, n'importe qui que ce soit qui sert Dieu est plus heureux quand il se met corps et âme au service de ceux que Dieu lui a confiés, que Dieu met sur sa route, et même s'il doit s'imposer des privations et des fatigues, ce qui est vraiment le témoignage de l'apôtre Paul. Lui, il s'est tout imposé. Finalement, dans ce départ, après son discours pastoral magnifique qu'il fait aux anciens de l'église d'Éphèse, comment se sépare-t-il? À genoux dans la prière. C'est à noter. C'est comme ça que se terminent les adieux de l'apôtre responsable d'Éphèse. Tous ces hommes qui étaient liés par une vive affection, ils avaient travaillé, ils avaient souffert ensemble pendant 3 ans. La séparation la plus douloureuse est ainsi adoucie, car la communion dans l'amour de Dieu est le lien surnaturel entre ceux qui partent et ceux qui restent. Paul continue son voyage et jette l'ancre dans le port phénicien de Tyr, sur la côte palestinienne, où il passe une semaine avec des chrétiens. Au moment de les quitter, verset 5 du chapitre 21, Luc nous dit, nous ont tous accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants. Et là encore, nous nous sommes agenouillés sur le rivage pour prier. Quand j'étais étudiant en fac, je me souviens que je m'agenouillais pour prier devant mon lit. Mais je le fais rarement maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Quelle scène touchante! C'était la première fois que Paul faisait connaissance des chrétiens de Tyr. Et pourtant, après seulement une semaine, des relations d'amour se sont tissées entre eux. Partout où la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée, elle crée entre les croyants des liens tendres et profonds, parce que nous avons tous le même Père. Avant que je me convertisse, j'aimais bien regarder les cieux, le ciel étoilé, mais ça m'effrayait. C'est grand, il n'y a pas de mots pour qualifier à quoi ça ressemble. C'est immense, ça nous écrase, on se sent tout petit, perdu et orphelin. Et orphelin. Et une fois qu'on rencontre le Seigneur, ce n'est plus quelque chose qui nous écrase parce que nous avons un Père, le Père céleste, qui est au-dessus de cette voûte qui autrement nous écrase. Paul continue son voyage et jette l'ancre à Ptolémaïs, où il passe une journée avec les croyants de cette église, chapitre 21, 12 à 13. Il continue à pied jusqu'à la ville de Césarée, où d'autres chrétiens l'avertissent encore une fois de ce qu'il attend, des gros ennuis et des souffrances. Et Paul, en entendant cette déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Et là, il fait encore une fois, c'est pas la première, c'est pas la dernière, je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur. J'espère que ces paroles de la parole de Dieu vont s'incruster dans vos cœurs, de manière à ce que vous ayez, vous aussi, comme moi, en vue cet idéal que nous présente Luc en la personne de Paul, qui était comme vous et moi, hein, il était fait de chair et de sang. C'est difficile de se comparer à Jésus-Christ, hein, faut dire ce qui est. Mais Paul, c'était un persécuteur, un méchant, un violent, un islamiste, prêt à tout. Et regardez ce qu'il est devenu. Ce ne sont pas les nouvelles supplications de ces croyants qui vont faire changer Paul d'avis. Déjà auparavant, à Millet, il a déclaré que le sacrifice de sa vie est déjà fait dans son cœur. C'est déjà une décision qu'il a prise. Dieu l'appelle, il y va. Devant les plus douloureux sacrifices, obéir à la volonté du Maître est le devoir du croyant, mais c'est aussi sa consolation car il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul écrit, vous connaissez tous ce passage, « Trois fois j'ai été fouetté, une fois lapidé, vécu trois naufrages, les Écritures ne nous parlent que d'un seul. » Un jour et une nuit dans la mer, en voyage, en danger, dans les fleuves, en danger partout, infesté de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, dans les villes, dans les contrées désertes. Vous aimeriez vivre ce genre de situation, jour après jour, mois après mois? Quel exemple! Et aux Philippiens, il écrit « J'ai appris ». En toutes circonstances, à être content de l'état où je me trouve. Il faut le faire quand même. C'est vraiment un homme extraordinaire. Chapitre 22. Alors là, on a essayé de le tuer, enfin, une fois n'est pas coutume. Devant la foule qui a essayé de tuer, Paul se défend d'une accusation fausse portée contre lui. Alors regarde, lisez bien ce verset 3, parce qu'il nous indique comment Paul se défend. Il choisit bien ses mots. C'était un homme intelligent aussi. Il dit « Je suis juif, né à Tarse, éduqué à Jérusalem, et il a eu pour maître Gamaliel. » Bon, Paul choisit bien ses mots afin d'apaiser ses auditeurs. Il ne verse pas de l'huile sur le feu. Il s'identifie totalement aux juifs qui ont essayé de le tuer en disant qu'il est comme eux, mu par un zèle ardent. Il les comprend, et il comprend exactement ce qu'ils éprouvent vis-à-vis de lui. Ce n'est pas de la flatterie de la part de Paul, car il sait qu'au fond de ce fanatisme religieux, de ces gens qui ont cherché à le tuer, il y a un zèle sincère, quoique aveugle, parce que lui-même, il a expérimenté ce même zèle aveugle pour la tradition des pères. Il était comme eux, et notez bien que dans ce passage, Paul n'a aucun ressentiment. Maintenant, si quelqu'un essayait de me tuer, j'ai bien peur que je ne serais pas comme Paul. J'aurais de la hargne, peut-être même la haine au ventre. Lui, il n'a aucune haine, aucun ressentiment. Il leur parle avec amour. Pourquoi? Parce que son but, c'est de les gagner à Jésus-Christ. Pour l'apôtre, encore une fois, c'est ça qui compte, et pas sa vie. Chapitre 23, versets 6 et 7. Paul comparaît maintenant devant le Sanhédrin, le grand conseil juif. Eux aussi, ils veulent sa peau. Et comment? Et ça se passe très mal. Bon, ça, on aurait pu le penser. Alors, remarquez la ruse de Paul. C'est Machiavel qui a dit « Divise et tu règnes ». Mais Paul, il a déjà fait ça ici. Il faut diviser pour régner. Il savait que dans l'assemblée, il y avait des pharisiens, des sadducéens, et qu'au niveau théologique, il y avait peu de points communs. Alors il dit, je suis mis en accusation pour mon espérance en la résurrection. Et là, ça a été terminé. L'assemblée s'est divisée les uns contre les autres. Et c'est comme ça qu'il a commencé à régler le problème. Et ensuite, c'est les Romains qui l'ont tiré d'affaire. Versets 14 et 16 du chapitre 24. Maintenant, Paul se défend devant le gouverneur Félix, gouverneur de la Palestine. C'est intéressant de voir comment il défend la foi et comment il se défend lui-même. Il dit ici, dans les versets 14 à 16, « Cette espérance que j'ai, moi, pour laquelle je suis mis en accusation, est aussi l'espérance des Juifs. Cette espérance, c'est que les morts, justes et pécheurs, ressusciteront. C'est pourquoi je m'applique à garder une conscience irréprochable autant devant Dieu que devant les hommes. » Paul affirme être en plein accord avec la foi juive, bien qu'on l'accuse du contraire. C'est vrai, même Dieu, mêmes écrits, même espérance. Quelle espérance? C'est l'espérance de la résurrection. Le thème central de la foi chrétienne, c'est la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, d'ailleurs Paul le dit dans l'Épître aux Corinthiens, on ferait mieux d'aller jouer aux boules ou bien d'aller ramasser mes frères ce matin, ils sont partis aux champignons. S'il n'y a pas de résurrection, on a intérêt à partir aux champignons le dimanche matin. La résurrection, c'est le cœur vital du christianisme. Et c'était aussi ce que prêchait Paul dans partout où il allait, le thème central de la foi, et il avait été ce thème de la résurrection avait été annoncé par la loi et les prophètes, qui est une façon de dire tout l'Ancien Testament. La résurrection est au cœur du message que nous annonçons en Jésus-Christ. En fait, le christianisme repose sur deux piliers. Il y a d'abord la mort réelle, véritable de Jésus-Christ, sur la croix, ce qui veut dire que ce ne fut pas une illusion, mais la séparation de l'âme et du corps du Seigneur, ce qui a été prouvé par son ensevelissement. C'est pourquoi Paul dit qu'il a été enseveli. Le deuxième pilier, c'est la résurrection corporelle du Christ. Là aussi, il ne s'agit pas d'une apparition, d'une illusion, d'une vague ombre que les disciples auraient peut-être aperçue. Mais il est ressuscité avec un corps glorifié, certes, différent, certes, mais semblable à celui que nous avons, parce qu'il pouvait être vu, touché, et il a permis au Seigneur de manger, comme vous et moi, avec son corps de résurrection. Et cette résurrection que Paul annonce n'est pas seulement un concept théorique, c'est une réalité qui est arrivée et qui arrivera aux bons et aux méchants. Et pour Paul, ça a une application pratique dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit que sa vie ne compte pas. Sa vie ne compte pas parce qu'il a en vue la résurrection. De toute manière, il va vivre. Et aussi, il dit ici dans les versets que dans la vie de tous les jours, il ne veut offenser ni Dieu ni les hommes. Il dit littéralement, je m'exerce à avoir constamment une conscience sans reproche. Voilà un idéal que vous et moi devrions poursuivre. Versets 24 et 26, Paul comparaît encore une deuxième fois devant le gouverneur Félix et cette fois il y a sa femme Drusille. Alors ça c'est intéressant, c'est la deuxième fois qu'il comparaît, ce qui veut dire peut-être que le gouverneur a montré un intérêt pour la foi chrétienne quand il lui a parlé de la résurrection. Qui est-ce qui veut ne pas ressusciter et continuer à vivre? On sait, hein, l'homme, nous sommes faits pour vivre et nous ne voulons pas vraiment mourir. Mais alors la deuxième fois, il parle de la juste manière de vivre et là, ça coince un petit peu parce qu'il commence à expliquer au gouverneur en quoi consiste la vie chrétienne. Il met son doigt sur l'injustice de Félix, indirectement certes, mais quand même, dans sa charge de gouverneur qu'il a obtenue en léchant les bottes de l'empereur et dans le but de s'enrichir grâce à des pots de vin. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Sa duplicité, sa convoitise sont rapportées par les auteurs antiques de l'époque. Donc c'était un sale type. Mais Félix connaît suffisamment la loi de Moïse pour se savoir condamné par elle. C'est pour ça qu'il est très mal à l'aise quand Paul le place sur la sellette. D'ailleurs, le rôle principal de la loi, hein, ce n'est pas d'essayer de l'appliquer, mais c'est de révéler mon incapacité à lui obéir. Mais l'apôtre Paul dit aussi, hein, il ne se contente pas de dire qu'il faut vivre d'une certaine manière, mais il dit aussi, on pense, ce n'est pas dans le passage, mais tout est à parier qu'il a aussi communiqué que la vraie justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ, parce que le grand thème des prédications de Paul dans ses épîtres, c'est la justification par la foi seule. Soit dit en passant que le mouvement de la réforme, c'était pareil. Le fer de lance du mouvement de la réforme du XVIe siècle, c'est la justification par la foi. Ensuite, il parle en second lieu de la justice, puis de la tempérance. Alors là, il touche un air à vif, parce que Drusille, c'est marrant, enfin, vous savez, si vous lisez simplement comme ça le livre des Actes, alors, Luc ne dit pas que Drusille avait été l'épouse d'un roi d'une cité-état, que Félix l'a fait enlever pour en faire sa troisième femme. Alors elle non plus, elle n'est pas une fille de bonne famille. Son père, le roi Agrippa Ier, a fait mettre à mort l'apôtre Jacques. Son grand-oncle a fait décapiter Jean-Baptiste et son grand-père a fait massacrer tous les enfants de Bethléem, essayant par là d'assassiner l'enfant Jésus. C'est un vrai nid de scorpions, ces gens-là. Il n'empêche que ce couple a l'immense privilège d'entendre l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de la part du plus grand évangéliste de tous les temps. Dans sa grâce, Dieu leur donne l'opportunité, l'occasion de se repentir et leur ouvre toutes grandes les portes de son royaume. Bon, en dernier lieu, Paul discourt sur le thème du jugement et il n'a pas froid aux yeux, c'est bien quelqu'un qui a déjà sacrifié sa vie au Christ parce qu'il parle là au gouverneur. Il s'adresse à quelqu'un qui a le pouvoir de le faire exécuter. C'est comme ça que Jean-Baptiste a payé de sa tête une déclaration analogue qu'il a faite à Hérode Antipas. Paul parle du moment où les hommes justes et injustes, il n'a pas peur, de tous les temps, seront appelés à la barre céleste pour rendre des comptes. D'ailleurs, un moment qui, je ne peux pas dire que ça m'intéresse tellement. Mais on n'y échappera pas, tous. On va tous passer devant la barre. Ça s'appelle, c'est pas un jugement, mais il n'empêche que on va remettre les pendules à l'heure. Il s'exprime avec une telle conviction que le Romain, le Félix, là, commence à chanceler. Habituellement dur comme pierre, il tremble comme une feuille devant ce pauvre prisonnier qui pourtant est totalement à sa merci. Chapitre 25. J'ai encore le temps, hein, oh là. Alors, maintenant, Paul comparaît devant Festus. Parce que être gouverneur au premier siècle, c'était pas nécessairement une sinécure. Hein. On pouvait se faire balancer. Et c'est ce qui est arrivé à Félix. Le nouveau gouverneur s'appelle Festus. Et il y a un roi à cette époque. Les Juifs ont un roi qui a été nommé par les Juifs, par les Romains, qui s'appelle Agrippa. Et Agrippa arrive aussi, et Bérénice. Vraiment un couple très coloré. Agrippa est un brave type, mais faible. Il vient pour rendre hommage à Festus, le nouveau gouverneur, qui est le représentant de l'empereur et dont il est le vassal. Agrippa, avant, j'ai parlé de Drusille, n'est-ce pas? La femme du gouverneur précédent, Félix. D'accord, vous avez Drusille? Drusille. Agrippa, Bérénice, ça c'est le couple coloré. Agrippa, Bérénice et Drusille sont frères et sœurs. Alors, comme Drusille, Bérénice est très très belle. Est l'une des femmes aux mœurs les plus dissolues de l'Empire. Maîtresse de l'empereur Vespasien, puis de son fils Titus, au moment de cette visite, elle entretient une relation incestueuse avec son frère Agrippa pour la seconde fois. Entre-temps, elle s'est remariée. Faut changer. Comme quoi, vous voyez que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein, aujourd'hui, on se s'élève, par exemple, je sais pas, pareil que les homosexuels vont peut-être avoir le droit de se marier. J'ai reçu plusieurs, peut-être vous aussi, plusieurs demandes où on doit signer des pétitions et bon, je veux bien, je les signe. Moi, je trouve que c'est vrai, je suis contre, mais il faut garder à l'esprit que nous sommes étrangers et voyageurs, et que nous sommes d'abord citoyens des cieux. Aux États-Unis, il y a une campagne électorale amusante, pour ne pas dire déprimante, et les chrétiens évangéliques qui, d'une manière générale, sont très à droite, vraiment, vraiment là-bas. Ils ne peuvent pas voir Obama, même en photo. Il le supporte pas à cause de certaines positions qu'il a prises. Bon. Et donc, ils aiment pas tellement le candidat républicain parce que d'abord, il est pas sympa, il n'a pas une bonne bouille et ça compte pour être élu. Et puis, il est mormon. Et là, ils hésitent un peu. Alors, mon point de vue là-dessus, en me plaçant justement dans le fait que nous sommes citoyens des cieux, c'est que je comprends très bien qu'on ne puisse pas voter pour Obama. Mais les Mormons ont une doctrine qui vraiment prend position contre Jésus-Christ. Et selon l'apôtre Jean, donc, Romney, c'est un antéchrist. Donc, on ne peut pas voter pour un antéchrist. Pas L apostrophe antéchrist, hein? Un antéchrist. Et donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais le mieux, à mon avis, c'est de ne pas voter. Mais bon, que les morts enterrent les morts, hein? Laisse-les se débrouiller. Moi, je suis citoyen des cieux. J'ai déjà voté. J'ai déjà voté mon suffrage, je suis royaliste, j'attends que Jésus-Christ instaure son royaume sur cette terre. Maintenant, de passer mon temps, mon énergie pour la politique du moment. Verset 23. Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice, ce couple très coloré, rien de neuf sous le soleil, arrivent en grand apparat. Alors là, ce n'est pas non plus dans votre Bible, mais je vais vous décrire comment ça se passe. Il faut se représenter la scène. Alors vous savez, le roi Agrippa, juif de naissance, lui, il peut vraiment comprendre ce que Paul va dire. Et pourquoi, et si vraiment l'opposition des Juifs est justifiée. Alors, mais Agrippa est un roi, et Bérénice est sa sœur, enfin, bref. Il saute sur cette occasion pour parader, et il faut se représenter la scène. Le pourpre du roi et les perles de Bérénice sont d'un luxe qui jette des étoiles aux yeux de tout le gratin ici présent. On a droit à une représentation théâtrale. Le roi, le gouverneur et une princesse, tous revêtus d'habits d'apparat. Ce n'est pas dans vos versets. Ils prennent place en grande pompe dans une salle couverte de somptueux tapis d'Orient. Chacun joue la fameuse scène « M'as-tu vu ? Mais regarde-moi donc !» Le but de chaque comédien est d'en mettre plein la vue aux autres. Toute l'intelligentsia est également présente. Les autorités romaines, les héros, les licteurs, les gardes en armes, ainsi que les officiers supérieurs qui commandent les 5 cohortes de 1000 hommes stationnés à Césarée. Un attroupement tout feu tout flamme du pouvoir avec tout le clinquant. Des galons dorés, casques de cuivre, décorations scintillantes, des tambours et trompettes et autres étalages de luxe et de prestige est au rendez-vous. Là-dessus, Paul, le pauvre prisonnier minable en vêtements ordinaires et enchaîné à un garde, est amené devant cette assemblée bigarrée. Trapu, il n'impressionne pas du tout, bien au contraire. Et pourtant, c'est bien lui qui annonce partout la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Messie des Juifs. L'assemblée va l'écouter car tous savent quand même qu'ils ont devant eux un homme exceptionnellement intelligent et très instruit. Il est en effet le grand, l'immense apôtre Paul. Il faut savoir qu'il est plus probable, ça c'est intéressant, il est plus que probable que dans la salle se trouve Julius. Qui est Julius? Chapitre 27, verset 1. C'est l'officier à qui Paul sera confié pendant son voyage à Rome et c'est ce qui explique sa bienveillance et sa confiance en Paul. Il l'a entendu. Il était dans la salle parce que c'était un officier supérieur. Versets 2 à 3, chapitre 26. Maintenant, Paul se défend. L'apôtre est simple, digne et il est sincère dans son compliment. On peut faire des compliments même à des gens peu recommandables. Il n'y a aucune trace de flatterie dans ses paroles. Et il estime, au contraire, que sa comparution devant Agrippa est un privilège du fait qu'il est en face de lui, qu'il a en face de lui quelqu'un, d'abord, qui n'a pas la haine au ventre, comme les Juifs et comme les membres du Sanhédrin. Et puis, il peut dire si l'enseignement de Paul s'oppose, oui ou non, à la loi de Moïse et aux prophètes, ou si, au contraire, l'enseignement de Paul est leur accomplissement. Cette allocution est le point d'orgue des défenses de Paul rapportées par Luc, versets 24 à 29. Là, Paul, dans sa défense, il y a Festus qui lui dit « Tu divagues ». Et il répond « Non, Excellence, je ne suis pas fou ». Remarquez que Paul se défend de manière calme et posée. « Tout ce que je dis est vrai et sensé ». D'ailleurs, et il s'adresse de nouveau au roi Agrippa. Paul ne se laisse pas décontenancer. Et Agrippa, lui, suit très bien le raisonnement de l'apôtre, car il connaît le judaïsme ainsi que les traits spécifiques du christianisme, comme la mort et la résurrection du Christ. L'appel de Paul au roi le trouble parce qu'il se trouve acculé au pied du mur. Comme il dit accepter l'enseignement de l'Ancien Testament, les paroles des prophètes, il est presque convaincu et presque chrétien qu'il dit. Ah, notez bien, il est presque chrétien. Il y a ce matin, dimanche, des gens qui vont dans différentes églises. Et il y a beaucoup, beaucoup qui sont presque chrétiens. Mais vous savez, presque a les mêmes conséquences éternelles que pas du tout, que ceux qui vont aux champignons. Hein, que vous alliez aux champignons ce matin, ou que vous alliez dans une autre église, ou que vous ayez une religion, peu importe que vous pratiquiez, ils vont mieux aller aux champignons. Ils vont mieux aller aux champignons. Ou bien quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ et uniquement en lui, ou bien il la place en quelqu'un, en quelque chose d'autre. C'est malheureusement le cas de ma maman qui a 91 ans. On saute le chapitre 27 qui est très tumultueux et on passe et on va finir avec le chapitre 28, verset 15. Les frères de cette ville, verset 15, sont venus à notre rencontre et quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. En fait, ce mot qui est traduit par « pris courage » signifie « encourager quelqu'un dans la détresse » et c'était bien le cas de Paul parce que quand même, il a beau être extraordinaire, c'est un être humain de chair et de sang avec toutes les faiblesses que nous connaissons. Les croyants de l'église de Rome ont parcouru 63 kilomètres jusqu'à l'endroit qui s'appelle le Forum d'appui pour venir à la rencontre du grand apôtre qu'ils connaissent comment ? Par oui dire, et surtout par l'épître aux Romains que Paul a écrit quand il était à Corinthe et qu'il leur a envoyé. C'est comme ça qu'ils le connaissent. Et deuxièmement, ils ont entendu parler de lui par les chrétiens asiatiques qui ont personnellement connu Paul pour s'être convertis sous son ministère. Il y en a une liste, chapitre 16 du livre des Romains. Quand Paul a traversé la ville natale de ces gens, ils l'ont entendu. Un deuxième groupe de chrétiens attend Paul au lieu dit les Trois Tavernes, cet endroit est à 50 km de Rome. Ces deux endroits sont également mentionnés dans la littérature par Horace et Cicéron, entre autres. En voyant ces chrétiens qui viennent chaleureusement le voir alors qu'il part pour la prison, pour passer devant l'empereur qui va décider de son sort, et il ne connaît pas son sort, il ne sait pas ce qu'il attend, mais on comprend le bonheur qu'il ressent d'éprouver un peu de chaleur humaine. Ses rencontres lui remontent le moral et il en a besoin, comme vous et moi. Je finis avec les versets 30 et 31. Je suis correct. Paul resta 2 années dans le logement qu'il avait loué. On lui a permis de louer un logement parce qu'il est citoyen romain. Et parce qu'il n'y a vraiment personne qui est venu l'accuser de quelque chose de grave. Donc, il a le droit de louer un logement. Sans doute, les chrétiens de Rome sont ceux qui payent. Et tous, il recevait tous ceux qui venaient le voir. Quel privilège. Après 2 ans à Césarée, ça fait 4 ans de captivité pour l'apôtre Paul. Pourquoi Dieu ? Dans notre vie, on a des tas de pourquoi. Pourquoi il m'arrive une tuile ? Pourquoi ? Vous n'en avez pas des pourquoi ? Pourquoi est-ce que le grand apôtre Paul est prisonnier pendant 4 ans ? Personne ne nous le dit. Bien, quelle dure épreuve quand même pour un battant, un homme de la trempe de Paul. Mais ces derniers versets du livre des Actes nous révèlent la force de caractère, la grande sérénité avec lesquelles l'apôtre supporte cet état d'emprisonnement. Il ne doute pas un instant que c'est pour lui la volonté de Dieu et les chaînes n'ont jamais diminué son activité missionnaire infatigable. Il a toujours un garde au moins présent, peut-être qu'il est enchaîné, et il parle et il annonce la bonne nouvelle. Tous les gardes du coin qui doivent se relayer pour garder l'apôtre Paul, ils ont tous été évangélisés, ils n'ont pas le choix. Hein. Il faut qu'ils restent 8 heures enchaînés à l'apôtre ou ici à garder l'apôtre. Alors vous voyez, et puis après un certain nombre de semaines, hop, deuxième session. Alors Dieu fait les choses selon son plan. Juifs, chrétiens ou païens viennent voir le grand apôtre Paul et on comprend avec quelle joie les croyants devaient se tenir en sa présence pour l'écouter, écouter les instructions du grand apôtre. Et nous aussi, on peut faire de même, écouter le grand apôtre en lisant ses épîtres. Merci de votre attention.
Merci Jacques, c'est vrai que ça donne envie de relire, c'est pas que la fin du livre des Actes, hein. Le reste aussi. On veut partager ce repas et avec deux fois ce matin cette interpellation d'être concitoyen des cieux, j'ai envie de dire que ce repas il est un petit peu extraterrestre aussi. Il n'est pas, c'est pas un repas naturel pour nous, pourtant c'est le lien que Dieu a bien voulu nous laisser et que le Christ a institué, de partager ce repas ensemble, si on n'est pas allé aux champignons. Aussi, mais c'est vraiment pris au mot, si dans notre cœur on n'est pas allé aux champignons ce matin. Donc c'est la seule condition pour partager ce repas. Et je voudrais juste vous lire ce qui est marqué dans le récit de Paul, ce que Paul donne aux Corinthiens, dans sa lettre aux Corinthiens, et qu'il a reçu de Dieu. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange du pain et boive de la coupe. Et je voudrais insister sur ce point. Il n'y a pas de condamnation dans ce texte. Il y a un appel, simplement. Une invitation à s'examiner et à manger. C'est ce que le Christ nous propose. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous sommes tous différents. C'est noté un peu plus loin dans cette lettre. Il y a, en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Et c'est donc tous différents que le Christ nous appelle à nous remémorer son sacrifice à la croix, ce jus de raisin qui représente son sang, ce pain coupé, brisé, qui représente son corps. C'est ce que nous voulons partager en proclamant qu'il revient bientôt et que nous l'attendons avec joie et avec espérance. Peut-être Craig et André, vous voulez vous approcher pour le service ?
On veut prier pour le remercier, spécialement d'être monté sur cette croix où son corps a été percé.
Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait à la croix. Seigneur, merci parce que tu nous as justifiés. Seigneur, merci parce qu'on est tes enfants. Seigneur, merci parce qu'un jour, on te verra face à face. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Amen.
Le corps du Christ a été donné, brisé à la croix, percé à la croix, et le sang du Christ a coulé, un sang pour la rémission des péchés, pour nous remettre nos péchés et pouvoir nous approcher de Dieu de nouveau, renouer ce lien avec Dieu. Et nous voulons remercier aussi pour ce sacrifice.
Merci Seigneur parce que c'est ce moment-là où tu es mort. Et tout le monde pensait à ce moment-là que c'était fini. Mais pourtant, c'était que le début. Puis là, 3 jours plus tard, tu es ressuscité. Moi, je te remercie Seigneur parce que je sais que ça c'est selon ton plan et puis tu vas revenir nous chercher. Amen.
Voilà, pendant que les paniers passent pour récupérer les petits gobelets. J'aimerais partager avec vous les annonces concernant nos activités. Cette semaine, alors voilà, ça s'affiche ici. En même temps, je sors sortir mes petites fiches. Mardi soir, nous avons une réunion de membres. On vous y invite vraiment à venir participer à cette réunion de membres d'une façon détendue, d'une façon sympa, pour discuter de différents projets. Alors, vous avez au fond de l'église, vous avez reçu, pour ceux qui ont Internet, vous avez reçu une invitation. Pour ceux qui n'ont pas Internet, le programme est au fond, je vais juste vous le donner. On a un temps d'introduction qui est sous le thème « Le Seigneur nous parle, que nous dit-il ?» Ensuite, on aura une réflexion sur la prière et l'étude de la parole dans l'Église, avec un échange, discussion et des propositions. On aura aussi un petit temps de réflexion sur l'avancement des travaux sur le pasteur. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de ça aussi. Et puis, on aura un temps important de réflexion sur la restructuration de l'Église, notamment sur les commissions, comme on vous l'avait représenté. Mais on va vous présenter tout ça mardi soir, le conseil d'anciens. Et puis, on aura un petit point sur les finances encore en fin de soirée. C'est à 20h. C'est à 20h. Dommage de rater le début. Ça sera intéressant. Donc c'est à 20h. On vous invite vraiment. J'ai envie de dire que vous soyez membre ou pas, venez discuter. On aura une ou deux petites décisions à prendre, mais des décisions qui sont juste pour avancer dans le travail qu'on est en train de mettre en place. Voilà donc. Mercredi, chorale ici. On a la chorale toutes les semaines pendant en tout cas un mois et demi. Vous préparez aussi pour la fin de l'année. Je fais un appel aussi. On manque un petit peu de monde à la chorale. Moi, je me suis trouvé tout seul en ténor. Alors, s'il y a des ténors, là, j'aimerais bien que quelqu'un vienne chanter avec moi. Forcez-vous un petit peu. Ça serait sympa. Enfin, en tout cas, on manque de monde, ouais, on peut le dire. Vous pouvez venir, vous êtes vraiment les bienvenus à la chorale. C'est super sympa. Ça dure 1h30 à peu près. On rigole bien. On mange des fois des petits chocolats. Pas souvent, mais c'est sympa. Voilà. Et puis, samedi, groupe de jeunes. Et puis, dimanche, notre culte, c'est un culte de partage, dimanche. Donc, préparez-vous aussi pour venir partager avec les frères et sœurs ici quelque chose que vous avez entendu, que vous avez vécu, et c'est important. Et il y a quelque chose de spécial pendant ce culte de partage, c'est que Paul et Zoé nous donneront leur témoignage en vue de devenir membres de l'Église aussi. On se réjouit déjà aussi de partager ça avec eux. C'est 14 heures de groupe de jeunes. Ah, alors ce n'était pas mis à jour, je pense, sur le site. C'est pas grave, 14 heures, groupe de jeunes. J'ai différentes choses à vous annoncer, des points qui sont plus loin dans le temps. D'abord, le 21 octobre, dimanche 21 octobre, on aura en tout cas un baptême, ici. Ce sera le baptême de Loïc. Alors Loïc, on ne le voit pas souvent, parce que Loïc, il bosse comme un fou. Et il n'est pas aux champignons, hein. Il bosse comme un fou le dimanche. Là où il s'occupe des personnes âgées, donc à l'hôpital de Tougins. Et puis, donc, il sera baptisé, donc Loïc, le 21, ici. Et c'est une invitation aussi aux personnes qui sont en réflexion, savoir justement s'ils vont aux champignons ou pas, le dimanche. Moi, je vous invite à poursuivre cette réflexion et à venir en parler aux anciens, en tout cas. Et si vous êtes intéressé par le baptême, on peut tout à fait envisager d'autres personnes ce jour-là. On se réjouira d'envisager d'autres personnes, bien sûr. Et puis, dans cette journée du 21, aussi, il y a quelque chose qui s'est greffé dessus, de tout à fait spécial. On aura ici une pièce de théâtre, ici, une pièce de théâtre qui s'appelle « Marc l'expérience », et qui sera une relecture, une explication de l'évangile de Marc, ici. Cette pièce a été montée par un groupe de l'église de Saint-Genis, nos frères Ménonites de Saint-Genis, et donc ils n'ont pas pu avoir les salles qu'ils voulaient, et on fait cet après-midi ici, ça sera vers 16h, 16h30, 17h, on n'a encore pas filé l'heure. Ça sera le jour du baptême, le dimanche 21 octobre. Voilà, une journée sympa aussi ici. Et puis, le 23 et 24 novembre, il y a la banque alimentaire, je vous le dis déjà. Il y aura de nouveau un doodle pour s'inscrire sur Internet. On a partagé avec les différentes églises du Pays de Gex. Notre église et les autres églises pastorales s'occuperont du carrefour de Senis. On a besoin de beaucoup de monde. Et les églises de Ferdet prendront en charge le carrefour Poterie. Voilà. Mais donc, si vous êtes plus près et que vous souhaitez aller aussi à Ferdet, vous pouvez vous inscrire aussi pour ceux qui le veulent. Mais on vous redira, mais réservez bien ce temps parce qu'on va devoir donner des réponses rapidement. C'est le 23 et 24 novembre, vendredi et samedi. Alors moi, je fais un appel très précis aux différents groupes qu'il y a dans l'église, aux groupes d'ados, aux groupes de jeunes. Prenez du temps, 1 heure, 2 heures, pour venir participer à la banque alimentaire. C'est une super expérience de se mettre au service comme ça aussi de l'aide, de l'entraide, vraiment pour partager avec les uns et les autres. Voilà. Et puis, encore une autre chose, la librairie, il y a une commande en cours, de nouveau. Hein, il y en avait déjà une il y a peu de temps. Il y a de nouveau une commande en cours commandez et vous serez livrés dans les temps, ici. Mais ils ont besoin de l'envoyer. Hein. C'est des livres, bien sûr. Hein. Des livres, des calendriers, on va pas, c'est pas le supermarché. Hein. Voilà. Juste encore vous parler de Briand. Vous donner quelques nouvelles de Briand. Il m'a envoyé un mail pour l'église hier, Briand. Donc vous savez que Briand a fait une chute il y a quelques temps en arrière. Et il est pas bien du tout. Hein. Il est resté alité avec une attelle à une jambe. Et il a dû aller donc à Saint-Julien hier pour un examen. Je suis revenu de l'IRM de Saint-Julien plus encouragé. Il semble qu'il n'y ait pas de fracture, mais il lui avait dit qu'il ne pourrait pas marcher avant plusieurs mois. Et il doit probablement réapprendre à marcher. Et il dit que la dernière fois qu'il a appris à marcher, c'était il y a très longtemps et qu'il a oublié. Vous connaissez son humour. Et donc ça ne va pas être très facile non plus. On peut bien penser à lui. Enfin, il dit qu'il va se remettre, tout, mais il doit attendre en tout cas un pronostic d'un chirurgien orthopédique pour la fin de la semaine. Là. Donc il semble que c'est surtout de l'usure. C'est pas étonnant, Briand a aussi beaucoup marché. Hein. C'est pas l'apôtre Paul, mais il a aussi beaucoup été à droite et à gauche. Donc on peut prier pour Briand, vraiment, vraiment prier. Appelez-le, faites-lui un petit coucou, mettez-lui un mail, il lit toujours ses mails. Il sera super content aussi. Voilà, moi j'ai fini mes annonces pour l'instant.
Salut, ça va?
Ouais, t'as préparé un truc, toi?
Rien du tout.
Aïe.
Ok. Alors, on n'a pas de panique. Vous avez entendu une petite musique de Noël, et Noël approche, déjà. Nous sommes en septembre. Il fallait qu'on place le mot fête de Noël, donc c'est fait.
On a urgence à placer.
Aussi, urgence, grande urgence. Atelier de travail.
Il y a aussi atelier de travail.
Oui, et puis aussi atelier de travail encore.
Et atelier de travail.
Oui, voilà.
Ok, alors, bon, donc on a une minute pour vous dire que la fête de Noël, c'est le 1er décembre.
C'est dans 2 mois, hein. C'est-à-dire 67 jours, on a intérêt à cravacher. Et nous avons besoin de vous.
Parce que, bon, nous, c'est vous.
Voilà. Donc vous trouverez au fond de la salle des affiches pour l'atelier costume, pour l'atelier décor, pour l'atelier buffet. Les autres ateliers viendront par la suite.
Sur ces affiches, vous voulez vous inscrire avant de quitter la salle. Oui, ouais. Vous voulez vous inscrire.
Et si vous ne vous inscrivez pas, vous n'aurez pas de cornet surprise. Oui. Non, non. Vous n'aurez juste pas la joie de travailler dans l'urgence. Ah, pour annoncer la bonne nouvelle, parce que...
La bonne nouvelle n'attend pas, mais Dieu attend, là.
Ça, c'était le truc sérieux de ce matin. Donc, remplissez les affiches qui sont au fond.
Alors, on aura bientôt des inscriptions qui ne sont pas encore là, mais on vous les mettra d'ici quelques semaines, pour former un casting de rêve. Donc, acteurs, figurants, comme l'année passée, on aura un petit peu plusieurs rôles, donc des rôles parlés, des rôles un peu moins parlés. Pensez-y déjà, ça va venir bientôt, là. On aura besoin de vous.
Et nous avons notre premier acteur déjà, et c'est un chien. Et c'est vrai.
Il a son rôle.
On cherche déjà, et c'est juste pour terminer sur ce point-là, on cherche déjà des costumes. Je pense qu'avec les dernières fêtes de Noël et vos relations, on peut avoir ça, sans trop en faire, parce que c'est dans 67 jours. Des costumes de Romains.
Avec toute la panoplie, hein. Sandales, casque, jupette. Voilà.
Petite lance, pas de catapulte, merci. Et des costumes d'époque, du temps de Jésus. On a besoin de grands tissus, on a besoin de laine pour faire des bergers, par exemple, on ne sait pas, on verra. Voilà, et ben merci.
Voilà, c'est à vous maintenant.
À la semaine prochaine.
Alors moi j'ai mis les affiches, mais j'ai cru que c'était la même, hein. J'ai mis tous les unes sur les autres, hein. Donc on va les décaler, hein. Faudrait m'expliquer un petit peu aussi, hein. Voilà, je vous invite à vous lever, et je vous lirai encore ces deux versets qu'on trouve à la fin justement de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, où Paul donne de la part de Dieu, de la part du Seigneur, cette bénédiction qui est pour nous ce matin aussi. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la puissance de Christ. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Bonne semaine à chacun. Que Dieu vous...